Vous savez ce que c'est que Chébran?
C'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
C'est Crignos.
Un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
J'aimais beaucoup ce côté Brockenschnock entre Mourouzi et Mitterrand, c'était pas mal. Hein. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, le magazine de la soirée en deux temps et à deux vitesses. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, eh bien on met la langue. Oui, histoire de langue, de combat, de jeu d'influence. La langue française est menacée, fragilisée face à la toute-puissance du mandarin, de l'anglais, de l'espagnol et de l'hindi sur la scène internationale et en France. Que dire du retour de nos langues régionales plébiscitées dans les écoles en région? On en parle ce soir, mais en quelle langue? Benoît Lagane.
On en parle avec nos invités, Yannick Jolin, comédien, conteur, auteur des spectacles Ma langue maternelle va mourir et J'ai du mal à vous parler d'amour et ensuite Causer d'amour. Il en fait deux pour le prix d'un.
Non, pour le prix d'un, non, je
non,
peux
pour
pas y croire.
Le prix d'un.
On
actuellement,
le connaît,
actuellement, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord, donc jusqu'au 26 octobre. Frédéric Penel qui écrit La guerre des langues, le français n'a pas dit son dernier mot, c'est aux éditions François Bourin. Michel Feltin-Palas, journaliste, rédacteur en chef à l'Express et animateur du blog Sur le bout des langues, et Daniel Salnave, écrivaine, académicienne. Votre dernier texte, Jojo le gilet jaune, est toujours disponible chez Gallimard.
Et bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
On parle les langues, et bien moi je parle la mienne. Elle est propre. Je suis la seule à le comprendre. Et sur le plan musical, ce soir, Marion Guilbeault, on chante quoi?
On va chanter en français. Et pourtant, elle vient du plat pays. Elle vient de la Belgique, après Damso, après Angèle. C'est la nouvelle sensation forte musicale. C'est Loose and the Yakuza. Elle sera en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole. Ce sera le Énervé la suite, France Inter, plus de géants du cinéma toute cette semaine. Et ce soir, c'est Today's Night Fever, masterclass, et ben oui, la fièvre du mardi soir, la masterclass de John Travolta. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Pas mal d'actualité en ce mois d'octobre autour de la question des langues. Dans Guerre des langues, le français n'a pas dit son mot. Frédéric Pernel, vous vous interrogez sur la place du français dans le monde et la façon dont l'anglais prend le dessus au sein même, par exemple, de l'Union européenne. On a même entendu la porte-parole de la Commission européenne rendre hommage en anglais à Jacques Chirac. Dans Ma langue maternelle va mourir et J'ai du mal à vous parler d'amour, ça c'est au Théâtre des Bouffes du Nord. Yannick Jolin, vous vous interrogez, vous, sur la situation de votre langue maternelle, votre patois du pas facile, hein. Oui. Votre patois du patou. Mais plus large.
Non, pas du tout.
Patou, c'est un. C'est toujours un truc par rapport à la mode. Et votre patois du Poitou. Et plus largement sur ces langues minoritaires dans un monde de plus en plus mondialisé. Avec cette question presque finale. Et si le patois est la langue du plouc de France, est-ce que le français ne serait pas en train de devenir le plouc de l'anglais? Et le spectacle, eh bien, il commence comme ça.
Ladies and gentlemen, let me introduce myself. Bonjour les mondes, qui dit ce qui ça, Yannick Jolin, né su et affié en parlange, en hérussé de paysan. Mesdames et messieurs, laissez-moi me présenter. Yannick Jolin, né et élevé en patois.
Une réaction à cette introduction en anglais, en parlange et en français de ce spectacle que nous avons un peu resserré, c'est pour les besoins de la radio, sinon c'est extrêmement long. Michel Feltin-Palas, vous l'avez vu le spectacle?
Je l'ai vu. Alors, tout à fait par hasard il y a deux jours et c'est absolument formidable, je le dis en toute sincérité. Je ne savais pas qu'on sera invité quelques jours plus tard ici. C'est formidable parce que en France, ça remet quelques idées en place qui sont rarement exposées. Le français n'est pas une langue supérieure aux langues régionales. J'ai un désaccord avec Yannick Jolin, c'est que je n'utilise jamais le mot patois qui est connoté. Et voilà, il faut bien comprendre que la France a la chance, l'immense chance d'avoir des langues sur son territoire. Je ne suis absolument pas opposé à ce que l'on ait une langue commune, pour parler entre nous, c'est très bien, mais elle a tendance à devenir une langue unique. Depuis des siècles, elle passe son temps à éradiquer et à faire disparaître ces langues. Elle y est presque arrivée. D'ici à la fin du siècle, tous les experts sont d'accord, si rien ne change, toutes les langues de France auront disparu de métropole. C'est un peu comme si à Paris, on se disait, écoutez, on a la Tour Eiffel, on va détruire Notre-Dame, l'Arc de Triomphe.
Notre-Dame, c'est presque
ça
fait.
Sert à rien. On a un monument. Oui, mais est-ce qu'on laisse tomber Notre-Dame sous prétexte qu'on a d'autres cathédrales gothiques?
Non,
nous avons une richesse. C'est notre patrimoine et on défend beaucoup la biodiversité naturelle et c'est très bien. Il faut défendre la biodiversité culturelle. Et voilà, le spectacle de Yannick Jolin permet de comprendre cela, de comprendre à quel point c'est quelque chose d'intime qui participe de l'identité des gens. C'est aussi important, nous disent les scientifiques et les neurosciences aujourd'hui, que le visage ou que le nom de famille.
Alors si vous ne dites pas patois, vous utilisez quel terme?
Langue.
Langue. Ah oui, c'est très bien.
Langue.
Et vous, vous revendiquez pas toi alors?
Je le revendique pas, mais c'est parce que pendant longtemps, quand j'utilisais le mot parlange, pour les gens qui m'entouraient, c'est-à-dire qui parlaient cette langue-là, eux ne connaissaient que le patois. On leur avait tellement rabâché ça pendant des générations et qu'ils avaient l'impression qu'on faisait des airs, comme donc c'est une espèce de manière je dis patois pour dire mieux ensuite.
Daniel Salnave, on se souvient que vous vous étiez opposé à l'époque à la charte européenne des langues régionales. Vous avez changé d'avis depuis?
Qui ne change pas d'avis? C'est parce qu'il est mort. À mon avis, c'est la seule hypothèse positive qu'on puisse donner quand on observe que quelqu'un n'a pas changé d'avis. Ce n'est pas seulement peut-être que j'ai changé d'avis au résultat, c'est peut-être cela. C'est que j'ai peut-être fini par adopter une position plus complexe, plus dialectique par rapport à ce dialogue justement, que la langue française centralisée et centrale, indispensable pour les échanges, doit mener avec les autres langues. Moi aussi, je suis comme vous. Je dis ni patois ni dialecte, je dis langue. Je pense que c'est un dialogue qu'il faut mener, que la disparition des langues régionales est une catastrophe. Vous avez employé des termes qui relèvent de l'écologie, je suis complètement d'accord. Je pourrais ajouter au slogan des Gilets jaunes, fin du mois, fin du monde, même combat. J'ajouterais fin du mois, fin du monde, fin des langues, même combat. C'est un slogan écologique. C'est une écologie des langues qu'il faut mener. Je pense que peut-être à ce moment-là, non pas pour me justifier, je pouvais avoir totalement tort, mais pas totalement tort.
Non, pas totalement.
C'est
quand
que
même.
Je pense qu'il y avait dans une revendication le désir de faire sauter les parois nationales en quelque sorte,
l'unité républicaine française.
Voilà,
ouais.
une Europe des régions plutôt qu'une Europe des nations.
Exactement. Alors, ouais.
Au moment où je me posais cette question, c'était il y a 20 ans environ, la question de l'Europe des nations et de l'Europe des régions se posait vraiment. Et aujourd'hui, pourquoi je suis beaucoup plus réservé sur cette question, c'est que la défense des nations prend trop souvent un tour nationaliste ou identitaire dans lequel je ne peux plus me reconnaître. Mais lorsqu'il s'agissait de, en effet, proposer une Europe qui pourrait tenir compte du cadre national et pas seulement éclater en région, j'étais plutôt dans cette direction, c'était il y a 20 ans.
Et oui, il y a 20 ans, donc c'était en 99, Frédéric Penel, la France était un petit peu seule à s'opposer à l'adoption de cette charte européenne des langues régionales à l'époque. C'est Jacques Chirac d'ailleurs qui s'y opposait, alors que lui-même a créé ensuite une fondation pour les langues, c'est quand même assez étrange d'ailleurs.
Personne ne change d'avis, voilà. Sauf les morts. Enfin, aujourd'hui, ça y est, c'est fini.
Comment vous l'expliquez ce mouvement à l'époque, justement, en 99?
Eh bien, Jacques Chirac s'inscrivait dans une très longue tradition monarchique puis républicaine, où justement il y avait une seule langue en France, c'est le français. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, pour en dire deux mots, c'est vrai que imposer de s'exprimer, enfin que les actes administratifs soient écrits dans un langage français maternel. Et en fait, c'était essentiellement le latin qui était visé. Langage français maternel, eh bien, c'est pas forcément la langue du roi, ça peut être n'importe quelle langue du royaume. Mais par la suite, on a eu une lecture très jacobine, en fait, de ce texte, et parce que le latin a été donc éradiqué, l'ennemi d'un certain nombre de personnes, c'est devenu justement les langues régionales. Et au moment de la Révolution, on réentend là les discours de Barrère à la tribune de la Convention, le fanatisme parle basque, les contre-révolutionnaires parlent bas breton, enfin la superstition parle bas breton, etc. Donc cette idée, est, effectivement, à partir de la Révolution, a pris un élan assez incroyable. Et tout au long du 19e siècle, on s'était forcé d'éradiquer les langues régionales.
Sauf qu'on était en 99, Daniel Salnave, en 99. Vous parliez de nationalisme tout à l'heure. Le nationalisme, il n'était pas quand même régional en 99.
Je partage la proposition de Frédéric Penel. Je trouve son livre d'ailleurs absolument formidable et je ne saurais trop conseiller qu'on le lise. Mais il faut voir aussi qu'au moment de la Révolution, on a un certain nombre de gens partisans de la Révolution qui disent « Oui, je viens vendre le français parce que je veux communiquer avec ceux qui vivent au sud de la Loire, à l'est du pays ou au nord. » L'unité à travers la langue, c'est un peu aussi l'unité du système métrique qui permet de dépasser la province où la livre n'est pas le même poids que 10 km au sud ou 10 km au nord. Il y a une revendication de langue française autour de cela. Bien évidemment, lorsqu'elle prend la forme de l'obscurantisme ou la contre-révolution parle basque ou breton, moi qui suis né près de la gare de Vendée, je peux vous dire que je connais en effet les limites que la Révolution française porte avec elle.
Alors, puisqu'on fait un petit cours d'histoire, ce qui est intéressant dans votre spectacle, Yannick Jolin, c'est que vous dites que l'aristocratie d'Europe a longtemps
longtemps parlé le français. En effet, dans toutes les cours d'Europe, on parlait le français, car on nous enviait la pureté de cette langue qui n'avait pas été polluée par le peuple. C'est-à-dire que le français était vécu, compris comme une langue
purifiée.
Purifié.
Ben parce que l'Académie française, justement, au début du XVIIe, s'emploie à nettoyer la langue de ses détritus.
Et des ordures,
Ouais, des ordures. Donc ça veut dire qu'on enlève tout ce qui est le langage populaire, et c'est pour ça qu'elle a été tellement enviée, qu'elle est devenue la norme, et qu'à la Révolution française, il n'y avait que 2 millions de Français qui parlaient le français, et c'était essentiellement l'aristocratie et l'administration royale, c'est-à-dire tous les rouages du pouvoir, ils n'avaient aucune envie que le peuple ne pollue cette langue-là.
C'est pourquoi il y a une contradiction d'ailleurs entre, à la même époque, entre Malherbe et l'Académie. Malherbe est mort, il n'est pas à l'Académie, mais Malherbe parle de l'apport pour la langue française de ceux, les crocheteurs du port au foin, c'est-à-dire d'une langue qui serait une langue du peuple, de ceux qui travaillent. Le port au foin, il n'est pas très loin de ce qui sera plus tard, tantôt le Louvre d'un côté ou le siège actuel de l'Académie. Il y a effectivement, de la part du pouvoir central, Richelieu, Louis XIII et très vite Louis XIV en fait, il y a très vite cette volonté qu'il faut que la langue opère cette centralisation et purification qui va être incarnée dans la monarchie absolue. Et la langue sera le Versailles de la monarchie absolue.
Michel Faltin-Palas.
Oui, il y a beaucoup d'idées fausses autour de la langue qui ont été développées par l'État en France. J'en cite deux parce que ça m'amuse souvent. On dit donc que le français est une langue pure, sous-entendu, une langue très claire. Si je vous dis « je loue mon appartement », ça peut vouloir dire que je suis propriétaire, que je vous loue, ça peut vouloir dire que je suis locataire, ou ça peut vouloir dire que j'invente les qualités.
Oui.
J'ai des exemples comme ça à foison. Elle n'est pas plus claire qu'une autre langue. Toutes les langues
ont des qualités. Vous mettez en cause le fameux discours de Rivarol.
Mais bien sûr, c'est de la propagande.
Vous êtes mon hôte?
Voilà, vous êtes mon hôte, voilà. On ne sait absolument pas si c'est moi qui vous reçois ou le contraire.
Si j'habite chez vous, si vous habitez chez moi.
Exactement.
Donc, la langue française n'est pas plus pure qu'une autre.
Tout autour des questions de propriété. C'est très intéressant.
Si la langue française est devenue puissante au XVIIIe siècle dans les aristocraties, c'est parce que la France à l'époque était la grande puissance militaire, économique, comme l'est l'anglais aujourd'hui avec les États-Unis, si vous voulez. La deuxième idée fausse, c'est que le français serait la langue des Lumières, la langue de la liberté, la langue du progrès. Comme si les langues avaient une valeur en soi. Le français au XVIIIe a été la langue des Lumières, mais ça a été aussi la langue de la monarchie, c'est exactement la même langue, donc elle défendait les idées contraires. C'est devenu au XIXe la langue du colonialisme et de l'esclavagisme. Au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait des gens qui, en français, ont défendu Dreyfus et en français, ont attaqué Dreyfus, etc., etc. En allemand, vous pouvez lire Goethe, vous pouvez lire Mein Kampf. Aucune langue ne porte des valeurs en soi, c'est évidemment vrai également des langues régionales. Donc il y a une propagande au service de l'État, et malheureusement, je m'aperçois que sur ces questions-là, en France, la culture générale n'est pas très très développée, y compris au sommet de l'État.
Est-ce que le marseillais, c'est une langue? En tout cas, eux, ils le parlent. Ayam, ils sont allés du côté du Japon avec un nouvel album. Yasuke, c'est attendu pour le 22 novembre.
Baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le.
Tu connais la Célessao, Pacacho, rarement KO.
Message personnel à ceux qui visent le titre, le chemin, la ceinture.
Et M6 Queen sur le ring.
Je trappe 7-7, crash sec, mec.
Live tout droit de Fort Greene à Brooklyn.
On vient convertir les sceptiques, les éclairer, chauffer leur climat.
Block party. Block party, quand les platines sont de sortie.
Tu t'es prêt pour découper,
yeah. Tu piges mais les rics.
A tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord.
Rap strict, rap strict. Rap strict, rap strict. Rap strict, rap strict. Rap strict, rap strict. Rap strict, dynamique, pure guerre de tranchées. Rap strict, dynamique, pure guerre de tranchées. Rap strict, dynamique, pure guerre de tranchées. Rap
je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont prises viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas. Même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je bosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains savent tous qu'on est des rockfighters. 100% des mots sont à nous. C'est quoi ce rap avec des ghostwriters? J'en pousse un, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de
de la guerre comme Géronimo. Smack les humilie, sous ce faux bling à Nick et Maritine. Comme Rakim les alignés, les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation. Leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. À mes yeux ça reste trop vague. Alors c'est quoi que tu fais, rap ou violence, pas beau escroc blague. À l'opposé d'un tata qui crue à l'extérieur dedans, complètement cuit ainsi fait le petit con, fout la merde puis s'enfuit. Ça s'étonne un an après que la guerrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. J'suis déjà loin devant mes ramènes au Monte Sando.
Nom de God, je ritaine avec un cas comme Kunta Kinte. J'viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip-hop, ton stop nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary, ça va piquer. Compliqué, ça va le devenir, ma team va rappliquer. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriquet. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet. Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite abdiquer. Des criquets, c'est ce qui restera quand je cesserai de kicker. Eux qui pensaient que pour rapper, il suffisait de cliquer. Tu veux tester le crew, fais la queue, prends un ticket. Plein de rimes dans l'escarcelle, ce pari-là est risqué. Mais puisque tu sembles insister, je vais pas résister. À la fin de l'envoi, ton petit boule va se faire plastiquer. On l'appelle Mike, sa fonction c'est d'éradiquer. On m'appelle Chou, j'ai la même fonction que Mike. C'est au cœur de la bataille que je fais taire les critiques. Les haters et les sceptiques, les gueux assis sur un piquet.
Omote Sando, I am, toujours avec l'accent marseillais.
A new rendezvous.
Do you speak French?
La France a un grand respect pour sa langue.
À Bruxelles, dans les milieux européens où l'anglais, comme partout, domine, on pouvait imaginer que la langue de Molière aurait aussi droit de citer, c'est le cas d'ailleurs.
Que ce soit au sein de l'Union européenne, que ce soit à l'ONU, nous battons pour notre langue.
Mais il peut y avoir des ratés.
President Juncker was devastated by the news that Jacques Chirac has passed away.
Le nouveau rendez-vous. Avec les élargissements aux pays scandinaves, puis à l'est de l'Europe, l'anglais a fini par tout écraser. Laurent Goumard, sur France Inter.
Laurent Goumard.
Oui, l'anglais a fini par vous écraser aussi.
Quel avenir pour le français? C'est un des sujets de notre rendez-vous de ce soir. Linguistique, on en parle avec le comédien-conteur Yannick Jolin, l'écrivaine et académicienne Danielle Salnave et deux journalistes, Michel Feltin-Palas de L'Express et Frédéric Penel qui publie Guerre des langues, le français n'a pas dit son dernier mot. Je reste avec vous Frédéric parce que dans votre livre, vous revenez sur la façon dont l'anglais a gagné les dernières batailles face aux français et vous dites, et alors ça je ne le savais pas, que c'est l'élite française actuelle qui serait la moins attachée à la francophonie et qu'elle contribuerait à dévaloriser notre langue. Et vous donnez un exemple, c'est la lettre de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, qui adresse un courrier à Michel Sapin, ministre de notre économie, tout ça en anglais dans le texte.
Oui, de la servitude volontaire, comme dirait la Boétie. Effectivement, c'est difficile de comprendre quel état d'esprit de certaines élites françaises. Quand on pense notamment qu'il y a un siècle, ces mêmes élites françaises étaient si enclines à propager leur langue, c'est quand même, quand on voit la création des alliances françaises, par exemple, c'était les élites, Jules Verne, Renan, etc. Enfin, et là, aujourd'hui, effectivement, il se passe un phénomène même qui, sociologiquement, est assez intéressant. Pourquoi Christine Lagarde, quand elle était donc ministre française, à l'Eurogroupe, elle s'exprimait systématiquement en anglais. Michel Sapin, donc effectivement, qui reçoit cette lettre de Pierre Moscovici.
En anglais.
Ouais, Trichet, qui a la BCE à s'exprimer systématiquement en anglais, alors que le Royaume-Uni ne fait pas partie justement de la zone euro. Donc on retrouve ces personnalités qui font tout pour ne pas défendre leur langue, c'est même plutôt le contraire.
À la fois, c'est la langue de l'économie, ce qui explique pour tous les exemples que vous avez cités, ce sont des leaders du monde économique.
Oui, c'est la langue du pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'on plaisante en disant « alors c'est formidable, peut-être que le Royaume-Uni va quitter l'Europe, après le Brexit, l'anglais aura toujours cette position dominante ». C'est qu'en réalité, la position dominante de l'anglais, et vous le dites, et on le dit plus généralement, elle est liée évidemment à la place que tient, c'est l'américanisation du monde. Et c'est pas le Royaume-Uni qui fait que l'anglais est considéré comme allant de soi. Alors, on a cet argument parfois, les politiques, c'est vraiment très choquant, mais on l'a parfois avec des savants, des scientifiques, qui disent disent, écoutez, on n'y peut rien, mais je reviens d'un congrès, il est impossible de mettre une autre langue que l'anglais parce que nous voulons des savants du monde entier, donc il faut une langue qui soit une sorte de langue basique pour les savants. Et évidemment, devant ces arguments-là, il faut se battre.
Michel Feltin-Palas.
Oui, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Il y a bien sûr de cela, les États-Unis sont dominants notamment dans les nouvelles technologies, et ce serait pour ça qu'on dit smartphone ou ce genre de choses. Très bien. Mais si c'était la puissance dominante dans un domaine qui imposait sa langue, on devrait parler allemand dans la chimie. On devrait parler coréen.
Non, parce
coréen.
Que l'Allemagne elle-même est soumise à la condition.
Voilà, on devrait parler arabe dans le pétrole.
Mais bien sûr. Mais
et c'est puis, par exemple, dans la mode. Moi, je suis frappé. La haute couture, la France a une réputation mondiale. Quand un défilé de mode a lieu pendant une semaine à Paris, ça s'appelle la Fashion Week. Bon. Donc on voit bien que la domination d'un pays dans un domaine ne suffit pas à tout expliquer. Il y a autre chose qui tient de la représentation des langues. Quand vous dites que vous parlez anglais, vous paraissez moderne parce que c'est la langue qui domine. Quand vous dites que vous parlez Poitevin-Saintongeais, vous passez pour un plouc, les gens n'y connaissent rien. Il y a des représentations associées à des langues. Et du coup, nos élites qui se piquent d'être modernes, veulent parler anglais pour montrer qu'elles en sont, tout comme les élites au XVIIIe voulaient montrer qu'elles parlaient français. C'est un système de snobisme, si vous voulez, de représentation. Et si je peux me permettre une petite pique, pourquoi le concert auquel on va assister tout à l'heure, l'annoncez-vous comme en live et pas en direct? C'est-à-dire que les médias sont aussi un domaine...
Je suis moderne, monsieur.
Voilà, exactement. Les médias se piquent de modernité, la publicité se pique de modernité, et donc beaucoup de gens utilisent l'anglais à la place de mots français et participent de ce fait à associer anglais et modernité. Donc c'est à nous aussi d'avoir une certaine conviction et une certaine cohérence.
C'est pas la puissance dans un domaine qui impose l'anglais, c'est plutôt la puissance globale. C'est l'idée que l'américanisation du monde, c'est tout de fond un accès à la modernité. Mondialisation égale modernité égale anglais.
Et pour autant, l'anglais n'est pas la langue la plus parlée au monde. Il y a l'espagnol, il y a l'hindi et le mandarin.
Bien sûr que non. Bien sûr.
Yannick Jolin, sur ce sujet, notamment des élites, parce que dans votre spectacle, vous dites que immédiatement, en vous faisant le chantre de votre langue maternelle, qui est aussi votre langue artistique, vous saviez que vous n'iriez jamais aussi haut que les gens de mon milieu artistique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est Gaston Miron, le poète québécois, qui dit ça très bien. Il dit quand on est on s'exprime dans une langue dominée, à talent égal, on n'arrivera jamais à la même hauteur, parce que de toute façon, il y a un pouvoir d'attractivité qui est je l'ai connu tout de suite. Mon premier voyage linguistique a été en Irlande, où j'étais dans les Gaeltacht, les zones de parler gaélique, où la langue irlandaise, depuis l'indépendance, était devenue la langue officielle. Il y avait un désamour, une désaffection des jeunes à l'époque, je sais pas aujourd'hui où c'en est, mais parce que c'était la langue de la perte, de la défaite. C'était une langue de perdant. Et aujourd'hui, il y a de toute façon dans l'humain une envie d'être du côté des gagnants. Et ça, c'est, et quand je parle de ma langue, moi, j'essaie d'en parler comme si c'était, je dis souvent, ma langue est une bâtarde. Elle a pas de père. C'est une langue quasiment féminine, puisqu'elle n'a pas d'armée, pas de frontières, pas de langue unique. C'est une langue de l'inutile, et c'est peut-être pour ça qu'elle est belle, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'espoir qu'elle soit une langue de gagnant.
À la fois, Frédéric Pénel, dans votre essai, vous citez Michel Serres, qui a expliqué que si les langues avaient disparu, c'est à cause de la caducité de ces langues régionales. Dès lors qu'on les sort du quotidien, on ne parlait pas mathématiques, pas philosophie, pas biochimie en gascon, c'est ce qu'il disait, Michel Serres.
Et donc c'est la même chose qui se passe pour le français. On ne parle pas, par exemple, haute technologie avec le français. Donc c'est la même histoire qui se propage au français par rapport aux langues régionales, en fait.
Oui, en fait, tout à fait. Si vous voulez, les langues, au bout d'un moment, il faut qu'elles puissent tout dire, tout exprimer. Et ce qui s'est passé, je pense, avec les langues régionales, c'est que au-delà de la politique jacobine, l'interdiction de parler des langues régionales à l'école, bon, ça, c'est, il y avait vraiment une politique derrière. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que les langues doivent notamment au 19e siècle, décrire la modernité, décrire les nouvelles inventions, les nouvelles réalités, c'est quelque chose d'essentiel. Et au bout d'un moment, c'est ce que raconte Michel Serres, c'est que effectivement, il y a certaines choses qu'on ne peut plus exprimer dans sa langue maternelle. Et lui-même expliquait que ses parents, ses oncles et tantes étaient en bilinguisme avec le gascon. Et au bout d'un moment, les parents peuvent décider d'eux-mêmes d'arrêter de transmettre leur propre langue à leurs enfants.
Ça, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, Michel?
Je suis en total désaccord. Il faudrait qu'on me prouve ce qu'il s'est passé depuis le 19e siècle pour que ces langues qui étaient aussi modernes que toutes les autres depuis 10 ou 12 siècles à peu près, tout d'un coup aient cessé de l'être. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'on a privé ces langues du statut qui permettent aux langues de véhiculer. On les a privées de l'accès à l'école, on les a privées de l'accès à l'emploi, on les a privées de l'accès aux médias, on les a privées de l'accès à la culture. Voilà pourquoi elles se sont moins transmises. Parce que pour réussir et sortir de la misère qui était celle de la paysannerie française, il fallait passer par le français. Au besoin, on a utilisé des méthodes violentes. Je vais vous citer une anecdote qui est très courte. On est dans les années 1900, on est dans une école à Marseille, justement. Une petite fille est surprise à parler provençal. Vous savez quelle est la punition ? Elle est de corvée de toilette. Et vous savez ce qui se passe ? Si elle récidive, elle doit nettoyer les toilettes avec la langue. Voilà comment on a éradiqué les langues dites régionales dans ce pays au nom des valeurs républicaines. Pardonnez-moi, ça, je suis très ému avec ça parce que ça m'exaspère. Qu'on me dise que ces langues sont des sous-langues au nom de la République. C'est faux. Et donc, pardonnez-moi Yannick, juste une chose. Ces langues peuvent être tout aussi modernes que les autres. J'en prends pour preuve deux cas. Il y avait, il y a 30 ans, le même nombre de locuteurs du breton et du gallois. 500 000. Il reste 200 000 locuteurs du breton, on est à 700 000 locuteurs du gallois. Expliquez-moi pourquoi le gallois est moderne et le breton ne le serait pas. Ce sont deux langues celtiques parlées dans deux pays de développement comparable. Prenez le catalan. 50% des catalans en Espagne parlent le catalan, 1% en France. Pourquoi le catalan serait-il moderne en Espagne et pas en France ? C'est faux. C'est de la propagande. Pardonnez-moi, je suis un peu violent. Et ce sont des idées fausses qu'ont développées les grands États. Il y a des luttes entre les pays, il vaut mieux être la langue d'un pays très développé comme les États-Unis que la langue d'un pays moins développé, c'est sûr, mais on peut agir différemment.
Mais cette question de moderne, pas moderne, c'est pas ainsi que je l'éprouve. J'éprouve surtout l'idée que nous devons prendre conscience, où que nous soyons nés en France, que nous avons plusieurs langues. Nous avons plus d'une langue. N'étant pas né en Bretagne, je n'avais pas le breton, ou bien en Occitan, je n'avais pas le gascon, etc. Moi, né dans la vallée de la Loire, j'ai pu croire pendant très longtemps qu'au fond, je n'avais qu'une langue, le français, qui était parlé mieux à l'école et plus correct que dans nos villages. J'ai vécu dans cette idée. Je suis fille d'instituteurs, petite fille d'instituteurs, eux-mêmes nés dans cette région, connaissant admirablement la langue angevine, ses intonations, son vocabulaire, ne la méprisant nullement, mais pensant que leur travail d'instituteur était de corriger ou de ne pas employer des formes qu'on employait dans les campagnes. Ce qui fait que j'ai découvert à un moment que je connaissais complètement cette langue-là et qu'au fond, je m'en étais pas aperçu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir des langues selon des usages. Et je vais me déplacer complètement par rapport à la France. Je pense à un livre qui m'a beaucoup marqué à une époque, le Kafka de Deleuze. Or, dans son Kafka, Deleuze fait appel à des travaux qui ont été faits sur quelles langues étaient les langues de Kafka. Quelle est la langue de Kafka ? Sa langue. De culture, juif de Prague, c'est l'allemand. Il va apprendre l'allemand, aller au lycée faire de l'allemand, et il écrira en allemand. Mais quelle est la langue que son père et son grand-père parlent dans le village ? C'est le tchèque. Mais le tchèque, il ne l'apprend pas. Il dit, je l'apprendrai pour parler avec les bonnes, et plus tard, il en parlera avec les petites prostituées, dit-il. C'est la langue du peuple, le tchèque. Plus tard, il va découvrir d'autres langue. Un jour, il est accueilli à Prague le théâtre yiddish venu de Varsovie. Il découvre le yiddish. C'est une sorte d'allemand plus hébreu qui l'émerveille parce que c'est là encore une troisième langue. Et puis tout à fait à la fin de sa vie, lorsqu'il vit à Berlin avec sa dernière compagne, il est saisi du désir d'apprendre l'hébreu, peut-être une hypothèse d'émigration qui n'est pas sûre, mais en tout cas il est très malade. Il y a quatre langues. Et Deleuze dit c'est ces quatre langues qui composent Kafka. Le tchèque, langue populaire, des bonnes et des prostituées. L'allemand, langue de culture dans laquelle il écrit, mais avec des tchéquismes dedans, qui n'existent pas dans la langue allemande. L'hébreu comme langue mythique d'un peuple qui n'a pas rejoint, et le yiddish comme langue du peuple juif ailleurs qu'en... Et je pense que nous tous, nous pourrions aussi vivre comme ça. On pourrait très bien... Moi, je veux qu'on apprenne l'anglais. J'essaie de le parler le moins mal possible. Mais j'ai appris d'autres langues aussi. Le français, je veux le parler le mieux possible, conserver une syntaxe rigoureuse, y accepter tout ce qui peut venir d'ailleurs. Et puis, me souvenir que mes arrière-grands-parents, quelque part, ou ma grand-mère, quelque part dans la vallée de la Loire, avaient un vocabulaire dont je suis fière de connaître encore l'usage, mais qui ne me servira peut-être pas autant que la langue française ou que l'anglais. Ça dépend des moments et des lieux.
Yannick Jelin.
Oui, deux choses. D'une part, que par rapport à la langue doit être jardinée. C'est ce que disait Dubelet à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire que pour arriver à ce qu'une langue pense tout un tas de choses, il faut la jardiner. Toute langue évolue. C'est sûr que le catalan, qui a été parlé par plein de gens, il a évolué, il a été jardiné, bien jardiné. Puis deuxième chose, c'est sur l'accueil des migrants, nous, en France. Sur la richesse linguistique de tous ces migrants. Je donne souvent cet exemple d'un gamin subsaharien, comme ils disent, qui est 14 langues. Et il était considéré comme analphabète et illettré quand il était à Pôle emploi. Notre capacité d'accueillir ces richesses-là sur notre territoire est tellement liée à cette vision de la langue unique comme unique passeport d'entrée sur le, chez nous.
Pour éviter les communautarismes, c'est ce qu'on va vous répondre, notamment.
Ça, c'est l'universalisme un peu supervisant le reste du monde. On sait très bien que c'est le respect des différences, le vrai universalisme.
Alors moi, j'aimerais juste revenir sur cette histoire d'éradication des langues pour rebondir sur votre anecdote, Michel Feltin-Palas. C'est l'histoire du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, qui est danois, et qui avait donné instruction à ses services, dont la plupart des membres quand même parlent parfaitement le français, de n'envoyer que des notes en anglais au nouveau président du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, qui est belge et qui est francophone, Charles Michel. Les Français ne réagissent pas ? Comment on peut comprendre ? Donc là, il y a véritablement une politique d'éradication de la langue française.
Ben, on parlait tout à l'heure, oui, c'est de l'idéologie aussi derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors que voilà, le Brexit n'est pas très loin, manifestement, l'anglais va conserver tout son empire à Bruxelles, au sein des institutions.
Ça veut dire que le français a raté l'Europe, en fait, c'est ça ?
Alors, jusqu'aux années 90, le français était extrêmement présent. Pour le, justement vous le montrer, j'aimerais raconter une anecdote. On est en 94. Donc on est en plein débat sur la loi Toubon en France, et les débats autour de cette langue, voilà, sont connus outre-Manche. Et donc ils s'en amusent. Et un journaliste britannique à Bruxelles pose une question en salle de presse. Il la pose en anglais. Et en fait, c'est une provocation. Parce que la langue, justement, de consensus à Bruxelles, c'était le français. Bon, et ce journaliste est devenu Premier ministre, c'est Boris Johnson. Et donc voilà, donc c'est pour vous montrer que vraiment le français, dans les années 90, c'était un peu la langue du consensus parmi les lobbyistes, la presse, parmi les fonctionnaires, etc. Après, donc, il y a eu les élargissements, et effectivement, il y a un certain nombre de pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, qui étaient de tradition plutôt anglophone. Et donc l'anglais a pris le dessus. Et là, ce qu'il faudrait, en fait, c'est pas revenir au français, non. Mais personne n'est pour. Mais c'est vrai que l'Europe a été construite aussi sur un projet de consensus, à savoir des pays pacifiquement, de leur plein consentement, veulent s'associer et ne veulent pas renier leur diversité. Et c'est un contrat, et le problème, c'est qu'avec ce monolinguisme, quel qu'il soit, aujourd'hui c'est monolinguisme en anglophone, renie ce principe de base.
Yeah.
créole de Del Grassi sur France Inter et en concert au Rocomotive de Vendôme le 26 octobre prochain. La programmation est linguistique ce soir, bien sûr, de Jean-Baptiste Diver.
C'est pas compliqué de parler de chimie.
Mais tu causes français, ma salope.
Pas de news, hein?
Je ne le cause pas, je le parle.
Bravo, Biloute!
Nouveau rendez-vous.
Ça veut dire quoi, Biloute?
Laurent Goumard.
Et si les langues régionales revenaient en force, et pas qu'en ch'ti, c'est la troisième partie du Énervé ce soir. On en parle avec nos invités, Yannick Jolin du Poitou, Daniel Salnave de l'Anjou, et deux journalistes, Frédéric Penel et Michel Feltin-Pellas, dont on ne sait pas d'où ils viennent, ils n'en ont rien dit, manifestement. Et vous, Benoît, vous venez d'où? De Tarbes, je crois.
Non, pas du tout. Oh, je vous fais chaque fois le coup d'avoir de ça.
Je viens d'Occitanie, je viens du Tarn-et-Garonne.
Voilà. On lisait dans Le Monde à la rentrée que les écoles en langue régionale craquaient actuellement sous les demandes. Comment vous expliquez cette forte demande, justement, en France, Michel Feltin-Pellas?
Alors, il y a plusieurs raisons qui se conjuguent. La principale, c'est l'idée que développent les sociologues, selon laquelle plus le monde se globalise, plus l'économie se globalise, plus on a besoin de racines. Alors, les sociologues aiment bien forger des nouveaux mots, appellent ça le glocal. Globalisation locale. Et en fait, vous avez besoin, en fait, de vous sentir appartenir à quelque part, sinon vous êtes complètement perdu.
Une sorte de crispation identitaire.
Alors, ça, c'est de la provocation, bien sûr. voilà, la volonté d'être de quelque part. Par exemple, moi, j'ai fait des enquêtes sur les écoles en immersion basque, c'est-à-dire tous les cours sont en basque, hein, concrètement, ouais. Sauf les cours de français, évidemment, comme une langue étrangère. Et les parents, plus de la moitié des enfants, mais c'est vrai également en Occitanie ou ailleurs, plus de la moitié des parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là n'ont aucune attache avec la région. C'est-à-dire non seulement ils ne parlent pas la langue, mais ils ne sont même pas originaires de cette région, leur famille n'est pas de là. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent, ben, moi ça n'est pas ma région d'origine, mais ça va être la région de mes enfants. Et donc je veux qu'ils s'approprient cette culture, qu'ils sachent comment ça fonctionne. J'ajoute un élément, c'est qu'il y a des méthodes pédagogiques alternatives, Montessori, ouais. Freinet, qui séduisent un certain nombre de parents, qui a une implication des parents dans ces écoles absolument formidable, et que ça conduit, c'est un des facteurs de réussite, elles obtiennent des résultats absolument formidables, et je le précise, puisque notre ministre de l'Éducation nationale a dit des grosses bêtises là-dessus.
Ah, en tout cas, il a reproché à ces écoles de faire de l'unilinguisme.
Voilà, je rappelle que, par exemple, les écoles d'Iwan, qui sont le même système en breton, tous les cours ont lieu en breton, ces enfants, non seulement ont leur bac, mais ils ont leur bac avec des résultats meilleurs que la moyenne, et des meilleures notes en français. Parce qu'évidemment, tout le monde le sait, quand vous êtes bilingue, ces enfants sont tous bilingues, vous allez plus facilement apprendre une troisième langue et vous avez des circuits neuronaux qui se développent et qui permettent d'apprendre plus facilement les mathématiques, l'histoire, etc.
Daniel Salnave.
Je voudrais parler
d'autre chose. Salnave, elle est très blanc-clair.
Je voudrais revenir à une petite conversation que j'ai eue un jour à Lorient, qui n'était d'ailleurs pas bretonnante dans les hautes époques, mais qui s'est découverte bretonnante et qui met toutes ces indications en deux langues dans la ville, ce qui est complètement nouveau pour les gens qui sont nés en Bretagne, c'est pas une partie bretonnante. On me dit, on peut faire des études de la 6e à la terminale entièrement en breton. Et je dis, on peut faire la classe de philo en breton, oui. Je dis, mais est-ce que Descartes est traduit en breton? On me dit non. Pourquoi? Ça me pose un problème. Je pense qu'en effet, on peut en effet faire de fortes études, y compris quand on n'est pas né sur le sol. Ça, je comprends très très bien les parents qui vous disent cela dans le Pays Basque. Je crois quand même qu'il faut maintenir aussi, tout de même, tout ce que constitue un enseignement solide en français de la 6e à la terminale, avec le corpus des textes et des œuvres. Mais ce sur quoi je fais une petite observation, c'est que quand on a des parents bretons qui veulent faire du breton à leurs enfants, disent « formidable, c'est pour leurs racines ». Là, on parle de racines. Si c'est des beurs qui veulent faire de l'arabe, on va dire que c'est du communautarisme. Ça me gêne un peu. Hein, parce qu'il y a communautarisme là, ou ailleurs, ou partout. Ou il n'y en a pas du tout.
Le bon bilinguisme ou le mauvais bilinguisme.
Ou alors, il y a une quête d'identité que je comprends complètement. Il est tout à fait normal qu'on veuille soit retrouver l'entité qu'on avait, la transmettre à ses enfants, soit en constituer une pour ses enfants, mais on peut pas faire deux poids deux mesures. Appeler racine avec révérence et communautarisme avec défiance, ça c'est pas possible.
Mais à la fois dans ces écoles, est-ce que l'on n'apprend pas de la même manière une langue régionale particulière? Dans le spectacle d'Annick Jolin, vous expliquez bien en quoi il y a plusieurs types de bretons.
Bah, c'est le problème d'une langue politique.
Et comment on crée un breton type?
Le corps, c'est pareil, il y en a plusieurs.
Parce que toutes les langues, avant d'être standardes, elles sont plastiques. C'est-à-dire, et ça serait une autre vision de la langue qu'il faudrait développer, c'est-à-dire accepter qu'on puisse envisager une langue avec plein de variantes. Ça nous obligerait à s'intéresser aux autres. Et quand on voit en France, quand on est obligé de mettre des sous-titres aux Québécois, parce qu'on n'est pas foutu de s'intéresser à la différence linguistique des Québécois, je me dis qu'on a vraiment du boulot à faire. La standardisation nous rend des grosses feignasses. Donc voilà.
Quelque chose aussi sur le cas du créole à La Réunion. 85% des enfants qui arrivent à l'école avec cette langue première. Or, il n'y a que 4% des enseignants qui sont habilités à dispenser un enseignement bilingue, c'est ce que vous dites. Et vous dites qu'il y a donc une résistance très forte au niveau de l'éducation nationale. Et vous finissez par dire, on préfère qu'à la fin du cycle de l'enseignement, on ait des enfants qui parlent un créole moyen, un français moyen, comme ça. Ça fait des citoyens moyens. C'est donc un projet politique, Yannick Jolin.
Oui, je pense vraiment que cette obligation, et il y a des résistances très fortes, encore plus dans les pays d'outre-mer, parce que là, il y a encore plus de peur de l'éclatement de l'unité nationale. Et c'est vrai qu'à La Réunion, c'est un cas de figure. Je ne connais pas les autres territoires, mais celui-ci, je le connais, je suis en lien régulier avec les gens qui s'occupent de l'enseignement du créole en primaire. Il y a une résistance extrêmement forte. Les inspecteurs d'académie disant, le créole, c'est à la maison, le français, c'est à l'école. Plutôt que de s'appuyer sur la connaissance, donc sur la langue première de ces gamins-là, pour les emmener vers un français meilleur.
Michel Feltin-Palas.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Toutes les études montrent que quand un enfant parle une autre langue que la langue de l'enseignement, il faut s'appuyer sur ses connaissances pour l'amener. Les enfants ont des facilités d'apprentissage de langues très, très nombreuses, donc il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que l'éducation nationale est très fermée à cette idée. Donc elle parle français à des enfants qui arrivent à l'école en ne parlant que créole. Du coup, ça conduit à des échecs majeurs. Et une fois que vous avez 4 ou 5 ans d'échecs scolaires dans les petites classes, l'enfant n'est plus récupérable, alors que potentiellement, donc il y a un blocage psychologique de l'éducation nationale qui est terrible. Et je rappelle, on a tendance en France à dire, en France, on parle français, sinon il y a un risque de communautarisme, on n'est pas des bons citoyens. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de poilus sont morts dans les tranchées pour la France, en ne parlant que breton, que gascon, que corse, etc. On peut tout à fait, on a du mal à comprendre en France une idée qui est simple, qui est l'identité multiple. On est tenu de choisir entre une seule identité qui serait l'identité française. Mais on peut être brestois, breton, français, européen, citoyen du monde. Et il n'y a pas de raison de renoncer à une seule de ces identités au profit des autres. Ou sinon, je dis à Emmanuel Macron, vous êtes pro-européen, renoncez à être français. Mais bien sûr que non. On est plusieurs, on a des identités multiples.
Frédéric Pennel, je crois que c'est dans votre livre que j'ai pu lire que c'est la France qui s'arc-boute sur l'idée qu'il y aurait une seule langue, alors que dans plein d'autres pays, c'est le multilinguisme qui est de facto.
Mais oui, il faut bien avoir à l'esprit que la France, en la matière, est atypique dans son monolinguisme. On retrouve pas du tout cette même philosophie ailleurs. Bon, sans parler de certains continents qui sont foisonnants en matière linguistique, l'Afrique, l'Inde. En Inde, il y aurait 1500 langues, donc considérable. Si on reste en Europe, donc le continent qui a vu naître l'État-nation, même les voisins de la France n'ont pas du tout le même regard que nous sur les langues régionales. Bon, l'Espagne, évidemment, mais même en Italie, par exemple, ça n'est pas d'ailleurs seulement l'idée de qu'il y ait plusieurs langues au sein d'un même État qui est difficile à comprendre, c'est même la manière de s'exprimer, ce sont les accents, c'est vrai que les Français sont marqués par un purisme très puissant. Et puis après, bien sûr, il y a des États qui sont officiellement plurilingues, donc la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Donc la France a un regard vraiment très particulier avec cette obsession monolingue et qui a expliqué effectivement la position qu'avait prise Jacques Chirac, on en avait parlé, même si je pense que lui a évolué sur la question, enfin la France évolue pas mal sur la question, et son parcours le démontre pas mal, parce qu'à la fin de sa vie, son obsession, c'était justement la disparition des langues. Quand il a quitté l'Élysée, il en a fait vraiment une affaire intime.
C'est une affaire qu'il a travaillée en dehors de la France, qu'il a travaillée dans d'autres pays, mais pas en France, justement, Michel Feltin-Palas. C'est ça tout le paradoxe de Jacques Chirac.
Jacques Chirac était un amoureux de la diversité linguistique dans le monde, mais en France, à chaque fois qu'il a eu à agir dans ce dossier, il a fermé toutes les portes, y compris quand il a eu des propositions au moment de la ratification de la charte européenne. Son ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, lui a fait des propositions. Jacques Chirac était malheureusement d'abord un énarque, donc il était pour la diversité, mais ailleurs. En France, il a contribué à la disparition.
L'universalisme, quoi. C'est-à-dire qu'on est, on s'intéresse aux diversités de partout ailleurs, mais tout ce qui était en intérieur, et on le voit bien dans les médias aussi. Vous entendez souvent parler d'autres langues,
j'entends parler Benoît Lagan tous les jours, excusez-moi de vous le dire.
Je parle pas occitan, moi, je parle juste avec l'accent du Sud.
Mais c'est vrai qu'il y a il y a l'idée de la peur du réactionnaire. Depuis l'abbé Grégoire, depuis 94, on est persuadé que d'un côté, il y a cette France des gilets jaunes, finalement, de la France périphérique, cette France d'une ruralité, ensauvagée, repliée sur elle-même, incapable d'évoluer. Et il y aurait cette France foutrement ouverte sur le monde et qui est à Paris essentiellement.
La question des accents est au moins aussi intéressante que la question des langues régionales. Il est clair que la disparition des accents, elle a été voulue par cette centralité qui était plutôt vers Paris, au nord de la France, elle s'est accentuée aujourd'hui par le déferlement d'une sorte de français techno quelque chose, qui est celui de la langue de la télévision, qui fait qu'au sud de la Loire, la diversité des accents, jusque de Toulon à Marseille, jusque chez mon grand-père du côté de Pau, dont je porte le nom, c'est largement perdu. Et Michel Serres aimait à raconter que quand il a passé l'agrégation, il avait une pointe d'accent du sud-ouest, on lui a dit, avec l'accent que vous avez, n'espérez pas faire carrière dans l'université. C'est vrai, et il y a des anecdotes là-dessus sur quelqu'un qui arrive en cagne, la classe préparatoire de l'élite en France, et qui dit « Pentez un sol au cimetière ». On lui dit « D'où venez-vous, mon ami ? Il vient de Montauban ». Et il n'a pas dit ce qu'il faut, « Pentez un sol au cimetière ». Il a dit « Pentez un sol au cimetière ». Il dit « Mon petit ami, il va falloir arranger tout ça ».
Ça sent l'ail.
Il y a un point sur lequel je trouve que nous avons raté, beaucoup, nous fêtons pour l'instant, le 30e anniversaire de la chute du mur, 89.
C'était notre émission d'hier. Vous tombez bien.
Alors je date un peu.
Ça, ah non, pas du tout, pas de hier. Justement, vous êtes dans l'actualité.
J'ai toujours un jour de retard, je suis angevine, c'est normal. Bien. On a manqué quelque chose. Au moment de cette transition, il est clair qu'on a vu, avant même qu'ils adhèrent à l'Union européenne, on a vu revenir en Europe des pays qui avaient une fascination atlantiste dont on n'a pas mesuré l'importance. Moi, pendant les années qui ont précédé, la vingtaine d'années qui a précédé la chute du mur, j'ai voyagé tout le temps en République tchèque, Tchécoslovaquie de l'époque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, où tout le monde, les gens parlaient encore très bien le français. Un des rares pays, j'ai appris grâce à vous, Frédéric, où on enseigne encore bien le français dès le secondaire et dès l'école encore. Bon, on a complètement raté cela. En fait, l'impression qu'on a eue, c'est que c'est l'Allemagne qui est en train de prendre le pouvoir. Et c'était vrai. Vous alliez à Prague, Siemens était partout. Le téléphone marchait mal, toc, c'était Siemens qui venait. Les ascenseurs marchaient pas bien, c'était, j'ai oublié laquelle firme allemande. On a cru que c'était ça. Non. En réalité, l'Allemagne aurait préféré que l'anglais... L'Allemagne n'avait aucune chance de triompher comme langue, mais elle préférait que l'anglais l'emporte parce que c'était une manière d'abaisser la France. Et au bout du compte, ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, c'est l'anglomanie totale, l'américanomanie de ces pays qui fait que ce qui avait été en 1848 la puissance de ces petits États d'Europe centrale, c'est pas l'ethnie au sens du sang, c'est la langue qui faisait leur unité. Les pays se sont faits autour du hongrois, du tchèque, etc. Voilà. Et là, c'est fini. C'est d'abord la fascination pour l'anglais. Alors ne parlons pas de toutes les autres conséquences de ces pays peu démocratiques.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci Daniel Salnave. Tout de suite, on va partir... en live. Mais non, on va partir en direct de la musique avec la French Touch. C'est Marion Guilbeault. All right, let's have a
little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Je vous préviens, Marion, le moindre anglicisme, vous êtes viré.
Ouh là là là.
Aujourd'hui, vous pouvez revenir demain.
D'accord, ok, je vais faire hyper attention. Alors, je commence. Je veux être l'exemple d'une femme noire qui a réussi toute seule, envers et contre tout. Et bien, ça, c'est la profession de foi de Luz and the Yakuza, alias Marie Pierra, la belle jeune femme noire de 23 ans qui est derrière moi, piercée, tatouée, rayonnante en survêtement rouge à trois bandes. Elle est superbe. C'est la dernière sensation forte arrivée de Belgique, un territoire où elle a trouvé refuge avec sa famille après avoir quitté son pays natal, le Congo, puis le Rwanda. Alors, l'histoire de Luz and the Yakuza est faite d'exil, d'épreuves, de renaissance. Elle a très vite abandonné ses études de philosophie pour créer un univers graphique, musical, urbain, cosmopolite. Elle joue vraiment sur l'ambivalence des sentiments avec une voix troublante. Elle sait que son indépendance, c'est sa force. C'est résiliente, elle s'est construite comment ? Elle s'est fait repérer avec une chaîne YouTube, la sienne, avec des propositions musicales hybrides, aussi sombres et vibrantes que du soulage. Elle a même réussi à convaincre El Guincho. El Guincho, c'est le producteur de Rosalía. Rosalía, c'est le phénomène électro-flamenco de Barcelone. Eh bien, El Guincho, il a accepté de travailler avec elle sur son premier disque. C'est le genre d'Amazon à qui rien ne résiste. Dans un autre registre, moi, elle me fait penser un peu à Christine and the Queens. C'est la même détermination, la même singularité, la même polyvalence. Il y a de la musique, il y a de la danse. Allez voir son clip. Et avant de jouer pour la toute première fois en live son titre...
En direct,
et en direct, youpi youpi. J'ai une question pour elle. Bonsoir, Luz.
Bonsoir.
Qui sont ces Yakuza qui sont accolés à votre nom?
Alors, les Yakuza, c'est tous les gens qui travaillent avec moi et qui n'ont peut-être pas la chance d'être mis dans la lumière, en fait. Et parce que dans la musique, on fait pas la musique tout seul. Déjà ici, je suis accompagnée de plein de Yakuza. Parce que c'est tout le ben, c'est des gens qui travaillent avec moi. Et puis après, ça va de, des attachés de presse à un management, à un beatmaker, à un producteur. Tous les gens qui m'entourent, en fait. Qui font de moi ce que je suis.
Super, il y a vraiment une dimension collective à Loos and the Yakuza. C'est à vous.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Yeah, yeah. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête.
Et plus la fête.
Si tu règnes, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chaîne qu'il faut tenir en laisse. Mais vive me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais te donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part de ma louche, à part seule. Seule, seule.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le son monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où c'est sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, je veux être seul.
Hey. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop froid, ça dérange. Mais la mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me berce et donc je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, je vivrais seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Seul, oh, je suis si seul, oh, je suis si seul, oh, je suis seul. Je veux être seul.
Merci à vous.
Dilemme pour la première fois. En direct, pour la première fois en direct à la radio, c'est extrait de son premier album Gore qui va sortir début 2020. Et yes. Loos and the Yakuza sera en concert au Transmusical de Rennes du 4 au 8 décembre où elle va assurer la création à l'air libre. Elle a été précédée dans l'exercice par Christine and the Queens, Aloïs Sauvage, Jeanne Haddad. Alors on va lui souhaiter exactement le même succès. Elle sera en concert aussi à la Cigale le 23 mars. Et elle était accompagnée ce soir par Hugo au clavier, Dorian à la batterie, Enkia et Connie au chœur. Et la prise de son était assurée par nos fidèles Yakuza à nous, Mathias Alléon et Théo Gomard. Merci
c'est
beaucoup.
C'est vrai que je les ai jamais regardés comme ça, mais ils ont des airs de Yakuza.
Sûr.
Ils foutent la trouille.
Merci
à nos invités. Merci Daniel Salnave. Je rappelle votre dernier livre, Jojo, le gilet jaune chez Gallimard. Yannick Jolin, votre marathon continue avec deux spectacles en même temps. Je ne sais pas comment vous faites. Ma langue maternelle va mourir, j'ai du mal à vous parler d'amour et causer d'amour. C'est au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris jusqu'au 26 octobre. Frédéric Penel, La guerre des langues, le français n'a pas dit son dernier mot aux éditions François Bourin. Et enfin Michel Feltin-Palas,
Vallas. On vous retrouve dans l'Express et sur votre blog sur le bout des langues. Merci à vous quatre. C'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Toujours plus, on adore ça. Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur France Inter et en podcast. Et puis sinon, c'est 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation, c'est Virginie Rouzic, Clémence Diligent et mon Benoît Lagan.